bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Ouais.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale sans Nagui, et autour de la table, Albert Angou.
Bonjour.
Guillaume Mangouis.
Oui, naturellement.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
En deuxième heure temps, Guy Pastureau viendra maltraiter l'info, et bien entendu à mes côtés, Leïla Kadour Bounadi.
Bonjour à tous, et notre invité dans la bande originale aujourd'hui est Lambert Wilson. Bonjour Lambert, soyez le bienvenu.
Merci de nous recevoir.
On est ravis de vous recevoir, d'autant qu'on vous reçoit souvent quand Nagui n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Nagui ne vous aime pas beaucoup. Oh, mais non, non.
Le meilleur invité de la semaine.
Même ma première en solo, c'était avec vous, Lambert Wilson.
C'est vrai, vous avez eu très peur parce que je me suis réveillé à peu près 20 minutes avant le début de l'émission.
C'est ça.
Vous saviez que c'était Leïla?
Non, j'avais complètement oublié.
Non, c'est pour ça que...
J'ai traversé Paris très, de façon dangereuse.
Et là, Lambert est arrivé avec une demi-heure d'avance.
Oui.
Pour être bien sûr.
Absolument.
Que tout soit dans les règles.
Et une jambe cassée.
Vous venez nous présenter le Misanthrope que vous jouez en ce moment au Comédia. Ça sera jusqu'au 18 mai. Une pièce, bien entendu, de Molière, mise en scène par Peter Stein. Un très, très beau texte où on a pris beaucoup de plaisir à venir vous voir avec Daniel. Daniel s'est déplacé, c'est vous dire. Si c'est
Et
pas,
je sais que Daniel, on n'a pas voulu le laisser entrer dans les coulisses. Il a été interdit.
Ils ont eu peur.
Mais il a dit qu'il s'appelait pourquoi. Landru aussi.
C'est surtout qu'ils le connaissaient, en fait. C'est pas qu'ils l'ont pas connu. Non, c'est très bien qui vous êtes. Vous ne rentrez pas dans les
Vous
couilles.
Sortez tout de suite. Vous quittez cet endroit.
On va parler de ce misanthrope, de ce très bon misanthrope à voir en ce moment au Comédia jusqu'au 18 mai.
Ne vous arrêtez pas à l'affiche. J'ai une perruque effrayante et j'ai un air menaçant sur l'affiche.
Vous faites peur.
Je suis beaucoup plus gentil à l'intérieur.
Oui, mais vous incarnez parfaitement ce misanthrope. On va voir justement si le misanthrope a gagné du terrain aussi chez vous. Parce que c'est quand même une pièce, on le dit, de toutes les pièces de Molière, mais c'est vrai que quand je suis venue vous applaudir vendredi soir, à chaque fois j'ai cette révélation, le texte qui est d'une beauté incroyable, qui doit pas être facile, on va y revenir ensemble, à apprendre et à donner comme ça sur scène, et surtout se dire que c'est totalement encore d'actualité, qu'on peut transposer la cour de l'époque à la société d'aujourd'hui, au monde du cinéma par exemple.
Ou de la politique.
Ou des médias.
Et ça garde tout son sens. Mais avant ça, on va passer à l'interro de début d'émission pour voir si tout le monde a bien bossé, même quand Nagui n'est pas là, est-ce que ça bosse? Vous êtes prêts? C'est parti. Comment Jean-Louis Barrault avait-il habillé Lambert Wilson pour le spectacle L'amour de l'amour? C'était en 1981.
Avec une feuille de vigne.
Pas loin.
Nu. Il ne l'avait pas habillé en fait.
Nu.
Pas tout Presque. À fait.
Ouais. Un juste corps couleur chair.
Non.
String à paillettes.
Un tanga.
Un petit pagne.
Le string à paillettes se rapproche. Allez, on va
un
dire
étui peignant.
Que... Daniel, c'était oui. un.
Un string en plume de cygne blanc.
Ah, un string.
C'était un string. En fait, j'avais les fesses à l'air, mais c'était recouvert de plumes blanches.
C'était quoi, un bizutage que se passait-il?
Pas du tout. C'était Cupidon. C'est la tenue de Cupidon.
Vous l'avez gardé?
Cupidon montre ses fesses. Oui, précieusement.
Et comment vous l'aviez vécu à l'époque?
En fait, j'étais complètement candide parce que je ne pensais pas que ça allait être comique. Et le premier jour du spectacle, je suis arrivé en faisant semblant de voler, ce qui est quand même extraordinaire pour jouer Cupidon. Et le public avait éclaté de rire. Et j'avais compris qu'en fait, je jouais une farce, en fait. Et quand même, Annie Dupéret, qui jouait ma mère Vénus, elle se prélassait dans une énorme coquille Saint-Jacques. Donc c'était, le tout était assez kitsch.
Et c'était au Théâtre du Rond-Point.
Au Théâtre du Rond-Point. Merveilleux souvenir avec Jean-Louis Barrault.
Et vos parents, vos proches étaient venus vous voir?
Oh ben non, le problème, c'est surtout que j'étais sur le point de faire un film très sérieux, mon premier film américain dans lequel je jouais un rôle très rustique de guide de montagne suisse, et je redoutais terriblement que le metteur en scène apparaisse et me voie en slip de plumes blanc, parce que là, c'était fini pour le rôle, ça aurait été la fin absolue.
Mais ça s'est bien passé, on poursuit. Après le tournage de l'hiver 54, que s'est-il passé dans la vie de Lambert Wilson?
Oui, que s'est-il passé d'ailleurs, effectivement. Oui.
Alors, il s'est passé plein de choses, mais...
Il a rencontré l'abbé Pierre.
Un événement, il a rencontré, en effet, mais ça va plus loin que ça.
Il a 50% chez Emmaüs.
Ça,
il est devenu sans-abri lui-même.
Non.
Oh, je ne sais pas si on va en parler alors.
Il s'est fait baptiser par l'abbé Pierre.
Absolument.
Oui.
Ça m'est revenu.
Mais beaucoup plus tard. Ouais. C'était vraiment presque 10 ans plus tard, voilà. Mais je l'ai dit souvent, il aurait pu être... Alors ça va en choquer certains, quand je dis, il aurait pu être pasteur, rabbin. Imam, rabbin, j'avais envie d'un rite de passage avec lui.
C'était et, cet homme-là.
Ouais. C'était cet homme-là, ce, notre histoire, ce qu'il avait à me dire sur voilà, la spiritualité, plus que le dogme catholique à tout prix.
Ouais, et dans votre carrière, incarner l'abbé Pierre, ou alors votre rôle aussi dans le film de Xavier Beauvois, ça a été deux rôles très très forts qui font encore qu'on vient vous voir pour vous en parler.
Oui, mais je suis pas très fier finalement de moi dans le rôle de l'abbé Pierre parce que c'est arrivé trop jeune.
Oui.
J'étais trop jeune quand ça m'est arrivé. Quand je vois des images du film, je dis mais non, c'était pas du tout le bon casting pour ce rôle-là. Ma voix est très haut perché.
Vous êtes très critique.
J'aurais aimé le faire maintenant, par
ouais,
exemple. Ça serait mieux. Alors. Pour me rattraper, je viens de jouer un rôle de prélat extrêmement néfaste dans le prochain film de Paul Verhoeven qui s'appelle Benedetta, mm-hmm. sur une vraie histoire d'une nonne en Toscane au XVIIe siècle, début XVIIe siècle. Et là, je suis un grand inquisiteur, je suis terrifiant dans ça. Donc,
ça
voilà,
vous va bien, ces rôles-là. Hein.
Ouais. Mais j'attends le pape.
Vous le méritez, il faut attendre un peu encore.
Tourné par Verhoeven, ça doit être un peu hardcore.
C'est un film dont on va beaucoup parler.
Oui.
C'est un film avec Virginie Efira, Charlotte Rampling. Et on raconte une vraie histoire. En fait, c'est un texte qui a été gardé par le Vatican. C'est
ouais.
les minutes du procès de cette nonne qui avait des visions et qu'on soupçonnait d'être un petit peu hérétique et un peu théâtrale. Et puis, elle avait aussi une vie privée un petit peu mouvementée.
Et donc, c'est prévu pour quand ?
Et en fait, ils sont en montage maintenant, donc voilà, je ne sais pas quand le film va
donc
sortir.
Donc on va vous découvrir dans pas très longtemps. Oui. Pas
puis il y aura le procès avec le Vatican, pour repousser la date,
mais
il
ne
ça,
peut
quoi.
Pas y avoir de procès puisque c'est un texte du Vatican. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ouais. une historienne américaine qui a découvert ça à Florence, et ce sont des archives qui viennent directement du Vatican.
On continue. Il en rêve depuis longtemps, Lambert, mais de quoi ? Alors même vous, je pense que c'est compliqué.
De l'amour.
L'amour fou, l'amour vrai.
Non. Sans doute aussi, mais c'est pas la réponse que j'attends.
C'est apprendre quelque chose
C'est en rapport avec la vie,
le
temps qui passe aussi.
Qu'on lui foute la paix dans les interviews.
Qu'on lui foute la paix, oui, sans doute, oui. Mais non.
Une question intelligente de notre part
Alors ça, je pense qu'il va attendre longtemps. Il va attendre très longtemps.
La béatification.
L'arrivée d'un magicien qui me demanderait la phrase géniale « Vous avez trois vœux ». Ça serait. J'attends ça depuis que je suis petit.
C'est vrai.
Ah oui.
Mais ça va venir.
Je suis prêt. Hein.
Il y a la
j'ai
qui
les
va
vœux.
Sortir.
J'ai les vœux.
Alors
j'ai
ça serait
prêts.
Quoi Oui. Alors.
Le premier, c'est de devenir. Bah si, c'est de devenir magicien moi-même. Comme ça, après, j'en ai plein de vœux.
Ah ouais, voilà. Ouais.
Ça, c'est une mise en abîme. Là, ça n'en finit pas.
Le génie qui devient génie. Là, ça concernerait plutôt l'Amérique du Sud.
Vendre de la cocaïne.
On la rate.
Non, alors, ça, il peut le faire à Paris. Il n'a pas besoin d'aller en Amérique du Sud. Mais c'est pas bien. Oui.
Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais devenir professeur de tango dans la banlieue de Buenos Aires.
Bon alors, on va
vous
l'accorde.
Vous êtes très fort.
Attention, Lambert, c'est votre premier vœu. Après, il en reste plus que deux. C'était une année sabbatique.
Ah oui. Oui, ça c'est vrai. Il se trouve que j'ai découvert Buenos Aires et l'Argentine et je suis toqué de cette ville, de ce pays. Je trouve que les Argentins sont des gens formidables et j'aimerais traîner mes basques et partir avec un sac à dos en Amérique du Sud.
Vous voulez être Florent Pagny?
Je suis allé juste à côté de là où il habite. Je ne l'ai pas croisé, mais il a raison d'être là parce qu'il est peinard d'un point de vue fiscal. Et puis en plus, c'est très très beau.
Attention, c'est quoi l'idée? C'est voyager tranquillement, lentement. Vous parliez de cours de danse.
Oui. Vous savez, la vie passe très très vite, je m'en rends compte de plus en plus, et j'ai l'impression que on est le nez sur le travail, sur nos petites inquiétudes, nos préoccupations. Pendant ce temps-là, voilà, le chronomètre tourne et il faut s'arrêter complètement.
Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette année sabbatique?
Et parce qu'en fait, on me propose des choses et les projets...
Mais vous dites non, je suis en année sabbatique.
Oui.
C'est dur de dire non.
C'est difficile de dire non à des choses qu'on a toujours voulu faire.
T'as pas toujours dit ça, Leïla.
De dire non. Merci beaucoup.
Et puis le calendrier se remplit, voilà. Mais
il faut peut-être le planifier.
C'est-à-dire,
en 2022, oui. je ferme la boutique un an.
Juste au moment où Iñárritu me propose.
Et voilà, c'est ça. En fait, c'est intenable comme position.
Oui,
c'est toujours se dire ça va venir.
Jamais.
Ça n'arrivera sans doute jamais.
Bon, alors ça reste
un moment. Donc en fait, soyez moins bon.
Il faut vivre l'année sabbatique quotidiennement, au moins quelques minutes par jour. Se dire, voilà, je suis en repos total, je regarde les arbres, il n'y a aucune préoccupation professionnelle. Et j'essaie de le faire, même en venant à Radio France, mm-hmm. en scooter, voilà, je regarde les platanes, je regarde le beau soleil.
Vous regardez devant
Seine.
Quand même, ouais.
La seule que vous avez vu, Daniel Morin.
Donc maintenant, vous voulez être Guillermo, en fait.
Voilà.
On continue. Lambert, enfant, avait une phobie. Laquelle ?
Le piano. J'ai dû la garder.
Le piano ?
Le vide.
Le piano, phobie du piano.
Non, je sais pas.
Oh, ouais, c'est bizarre, ça, comme
phobie. Le noir, enfin,
le noir non plus.
Un animal ou pas ? Un
chou-fleur. Oui.
Les insectes ?
Les chiens.
Les serpents. Les chiens.
Non, c'est lié à l'enfance.
Les biches.
Les poules, les chats, les araignées, les souris.
Les tortues.
Fred, pas loin avec chien.
Des lapins.
Des loups.
Ah, les loups.
Les loups à Paris, c'est
loups.
Non mais parce que j'étais un peu grassouillet et que mes parents se...
Ah, ils attaquent les maigres aussi.
Oui, c'est bizarre. Ça.
mes parents entretenaient le mythe du loup qui va s'emparer des enfants pour les grignoter, etc. Et en fait, j'avais mis au point un plan. C'est-à-dire que si jamais on se faisait attaquer par les loups, que j'allais faire le mort et que forcément, ils ne s'attaqueraient pas à moi. Mais c'était très sérieux. Je voyais des loups tout le temps en fermant les yeux dans la chambre, des ombres de loups. Ces contes sont dangereux. Ouais. Moi, ça m'a terrorisé. Le loup me menaçait. Et par exemple, surtout ce conte absolument atroce, qui est la chèvre de M. Seguin. La chèvre de M. Seguin, pour moi, c'est une tragédie absolue. Mmh. Et donc, je ne m'en suis pas complètement remis.
Et le loup, l'homme est un loup pour l'homme, c'est un peu aussi cette histoire du misanthrope que vous
c'est
jouez.
C'est presque une réplique, oui, oui. Ouais. Puisqu'entre humains, ainsi, vous vivez en vrai loup, traître, vous ne m'aurez de ma vie avec vous. J'adore dire cette réplique.
Et elle est très belle. Et le texte, on l'entend comme ça très bien dans votre bouche, Lambert Wilson. Vous faites très bien entendre Molière.
En fait, parfois, je suis tellement content de faire sonner ce texte parce que j'ai presque envie de fracasser le public avec ces menaces.
Ah, ouais. Oui, j'ai compris, les 10 premiers rangs, vous évitez. Lambert Wilson peut craquer à tout moment.
Non, mais parce qu'en fait, Peter Stein a établi une convention.
Le
metteur en scène allemand qui est celle de s'adresser au public, un peu comme à l'époque de Molière. Mm-hmm. Le public est là, ouais, dans la pièce. Quand on parle de l'humanité, on regarde le public. On peut pointer des gens qui sont des personnages fictifs dont on parle. Mais quand il s'agit de critiquer l'humanité et de décrire ses travers, c'est directement au public que je m'adresse.
Face
public est vraiment, c'est vraiment à eux. Quand je parle d'injustice, d'intérêt, trahison, fourberie, quand je parle de la perversité qui règne en ce monde, etc., je m'adresse directement au public en les regardant. Et c'est une convention qui est établie avec laquelle j'ai eu du mal au début, et puis finalement c'est une sorte de plaisir sadique que je suis en train de découvrir.
Eh bien, ce plaisir sadique, c'est jusqu'au 18 mai au Comédia, Lambert Wilson dans le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux, parce que ça, c'est le
vrai sujet.
C'est le vrai sujet. On va justement le développer. C'est que finalement, Alceste, que vous incarnez, en grec, Alceste, c'est le champion. Donc, c'est le champion de la misanthropie, finalement, oui, qui nous est donné à voir sur scène, qui est cet homme qui vit au sein de la très très bonne société et qui ne supporte plus les usages de la cour, les mondanités, l'hypocrisie qui règne.
Plus que ça, il ne supporte pas la façon dont l'homme se sert de l'homme. Dont mm-hmm. l'homme. Finalement, c'est
un cœur pur, c'est, au départ, cet Alceste.
C'est un idéaliste, il aime l'absolu. Et je pense que Molière a semé là les graines des premiers esprits forts que l'on va retrouver au siècle des Lumières et aussi à la Révolution mmh. française. Il est un de ses premiers personnages. Son problème, qui est le vrai problème de la pièce, c'est qu'il tombait de façon irrationnelle amoureux d'une fille qui est le contraire absolu. C'est-à-dire, elle est mondaine, elle est hypocrite, elle adore dire du mal des gens et elle adore cette société
dans
laquelle...
C'est l'archétype de tout ce qu'il déteste.
Et c'est ça la beauté de cette pièce, c'est qu'il est fou d'elle de façon irrationnelle et il va lutter pour surtout la garder pour elle. Il est possessif, jaloux, et il est absolu aussi en amour.
Et l'atrabilaire, ça fait référence aux théories des humeurs d'Hippocrate, où on considère que le caractère d'un individu est décidé par... en tout cas, c'est une notion d'équilibre ou d'excès de bile, de flegme, de sang ou de bile noire. Et dans notre cas, Alceste, c'est la bile noire qui le pousse à une forme de colère.
C'est la mélancolie et la colère.
Et la colère, une forme d'état presque dépressif parfois, où on se dit qu'il...
C'est pour ça que j'étais parfait pour le rôle.
Il y a une chose étrange,
oui,
c'est
Albert.
Que c'est que à l'origine, Molière ne jouait que des rôles comiques. C'est lui qui jouait le rôle d'Alceste. Oui. Et il y a une part comique. Et quand vous disiez que il préfigurait des personnages et des prises de position qui sont venues par la suite, je pense aux Vertueux sous la Révolution. Ouais. Il y a cette ambiguïté dans ce personnage qui était absolument fascinante et qui fait que selon les époques, Alceste apparaît différent. Il peut être interprété de manière différente, carrément comique, carrément justement atrabilaire, hein, comme il y en a chez Molière. Souvent, et puis un personnage sombre,
c'est la magie de ce
quasi
rôle.
Presque tragique. C'est un rôle très très riche.
C'est la magie de ce rôle. Vous jouez toutes les émotions.
C'est fou de variété. Ouais. Alors j'entends quand même certains esprits un peu traditionnalistes qui considèrent que ma proposition est excessive. Forcément, je suis un acteur de mon époque. J'ai digérer aussi les romantiques, la littérature russe, les personnages du théâtre russe. Et j'ai trouvé cette matière-là dans le texte. Il est complètement excessif. Mm-hmm. Alors, on me dit, ah non, Alceste ne fait pas ça. Parce qu'il y a pour certains publics un peu bourgeois, la langue de Molière, Alceste, tout ça, ça se tient. Ouais. Ça a une colonne vertébrale et une dignité. Mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas de dignité chez lui parce qu'il souffre. Il est en crise. Mm-hmm. J'ai parlé avec des psychiatres qui sont venus voir la pièce et qui m'ont dit, il n'y a pas de pathologie, simplement il est en état de crise amoureuse excessive et donc tout est possible. Il se roule par terre, il pleure, il est fou.
Et il danse, on a droit.
Une bourrée,
à...
une bourrée.
Une bourrée, oui.
Oui, j'ai
pour le plus grand plaisir du public. Hein.
Et cette envie d'incarner Alceste, parce que tout d'un coup, se confronter à des grands textes comme ça, même quand on est un grand acteur comme vous, j'imagine qu'on peut avoir une petite hésitation de se dire, voilà, je vais prêter mes traits à Alceste, au Misanthrope, qui est un grand texte. Je crois que vous avez abordé un peu Molière aussi lors d'un tournage avec Lucchini dans Alceste et la bicyclette.
Oui, c'était l'étincelle, c'était de faire quelques extraits du premier acte, de la première scène avec Fabrice Lucchini dans Alceste à bicyclette de Philippe Le Guay. De toute façon, je suis toujours inconscient dans mes choix. Je ne soupèse pas le danger d'incarner quelque chose de très célèbre. Jouer l'abbé Pierre, Cousteau, jouer... Ouais, je fonce parce que ça me paraît nécessaire. Je n'avais pas fait de théâtre classique, ou en tout cas même de théâtre pur. J'ai fait de la comédie musicale sur scène récemment. J'avais envie d'un défi, quelque chose, un os à ronger complexe. Et j'en suis fier parce que je sais qu'on a... Jusqu'à fin mai, on va jouer cette pièce en se posant tous les soirs la question de savoir comment on la joue, parce qu'elle est complexe, elle est dense, elle pose des questions techniques au niveau du verbe, et aussi elle ouvre la porte à une vraie discussion. C'est passionnant, on ne peut pas se lasser de cette pièce-là. Donc je voulais un gros morceau de réflexion surtout.
Et un gros morceau en bonne compagnie aussi, mise en scène par Peter Stein, qui est quand même un grand metteur en scène allemand. C'est vous qui êtes allé chercher, parce qu'il a mis en scène récemment le Tartuffe avec Arditi et Weber.
Ça. Et j'avais pas pu le faire. Ouais. Il avait été un peu offusqué et j'étais revenu à la charge avec ce misanthrope. Et il m'a entouré d'une troupe formidable d'acteurs très expérimentés dans le théâtre et dans le théâtre classique. Brigitte Catillon qui joue Arsinoé, qui a fait beaucoup de théâtre. Hervé Briot qui joue Philinte. Jean-Pierre Malot qui joue Oronte. Une merveilleuse Célimène, Pauline Chevalier. Et une merveilleuse Éliante, Manon Combes, qui avait joué Dorine avec dans ce Tartuffe.
C'est la distribution est parfaite.
Une équipe vraiment formidable. Il y en a d'autres, je ne cite pas tous, mais c'est une équipe.
Oui, de Patrice niveau, Dozier, Léo Dussolier, Jean-François Lapalu, Dimitri Viau, avec aussi des élèves comédiens qui viennent vous rejoindre sur scène, Arthur Alexu et Gauthier Burer. Tous les rôles sont très très bien distribués. Les hommes qui vous entourent, notamment sur scène, suscitent beaucoup beaucoup de rire et d'éléments de comédie.
On se demande parfois si la pièce n'est pas une pièce d'hommes, une pièce sur les hommes. Malgré ce personnage extrêmement énigmatique de Célimène, qui est finalement un des premiers personnages féministes, c'est-à-dire que c'est une femme en prisonnière de la société qui s'y plaît, qui veut prendre une sorte de vengeance, elle est veuve, elle veut en profiter du bon temps qu'elle a de flirter avec les uns et les autres, mais elle est la première à dire non. ces hommes la courtisent, veulent une réponse d'elle, et elle dit non, vous m'embêtez, non, je ne vous dirai pas suivant vos termes que je vous aime, je prendrai mon temps et je vous dirai si je vous aime suivant mes termes. Ouais. Il fait apparaître un personnage féminin fort. Et pourtant, on a l'impression que tout est discuté par les hommes.
C'est vrai.
Soit la philosophie, soit l'amour, etc. Et que les femmes sont un petit peu des objets qu'on va, desquels on va discuter.
D'ailleurs, elles n'ont pas vraiment de réplique comique à proprement parler. Elles sont là, certes, le rôle de Célimène est important, celle qui a compris la culture de l'image, finalement, hein, du masque, de la société. Oui. Elle renvoie les prétendants sans complètement leur dire les choses clairement.
Elle a besoin d'eux,
elle l'entretient. Oui. Elle l'entretient comme à la cour.
Mais alors, justement, Albert, merci. La plus belle scène, je trouve, de la pièce, c'est un combat de femmes, c'est-à-dire le combat entre deux dames de société, une jeune et une moins jeune, qui s'envoie des couteaux cachés. On a l'impression qu'il y a vraiment, elles portent des éventails et qu'elles font des manières, et que derrière il y a des poignards tendus et prêts.
C'est drôle, c'est la moins jeune qui arrive pour régler son compte à la plus jeune, et c'est elle qui finalement repart toute penaude.
Parce que Célimène est imbattable, elle est très intelligente et elle fait feu de tout bois, et en fait elle la mange toute crue.
Elle a cette puissance de la parole en effet. Ouais.
Qui fait feu de tout bois, non, vous voulez pas Albert?
Non.
Chaque personnage a une particularité.
Ouais. Et celui qui fait feu de tout bois.
Et qui a une grande particularité aussi physique et intellectuelle, c'est notre ami Tom Villa. Tom Villa, est-ce que vous savez pourquoi ce misanthrope avec Lambert Wilson va être un énorme succès?
Bah, déjà, quel plaisir de recevoir Lambert. Déjà, parce que vous faites partie des invités qu'on aime, contrairement à... Ouais. Et puis surtout, parce que vous venez promouvoir le misanthrope. Et comme on l'avait tous bossé en troisième ou pour le bac français, ça nous a tous arrangé. Non, mais c'est vrai, Nagui, il est en vacances et nous, on est là, donc on a le droit de se faire des petits plaisirs. Et puis, ça fait aussi plaisir de revenir aux fondamentaux. Il y a pas si longtemps, on a fait Nicky Larson, All Inclusive avec Dubosc, en passant par Didier Deschamps. Se remettre un petit coup de Molière, d'autant plus pendant les vacances scolaires, c'est malin, parce qu'on dit tout le temps que la majorité de nos auditeurs sur Inter, ce sont des profs. Déjà, c'est faux, parce qu'il y a aussi des instits et des proviseurs. Mais si notre auditoire, ce sont des profs, nous, notre horaire, c'est 11h, midi et demi. Donc, je sais pas quel prof peut nous écouter le reste de l'année, ceux qui sont en arrêt maladie ou en grève. Mais là, on est en pleine vacances scolaires, c'est là où ils nous écoutent. Donc, bien joué, les gars. On dit merci qui? Merci Layla et Daniel. Bien. C'est vrai que ça sent le succès, ce misanthrope avec Lambert Wilson. Déjà, parce que ça se joue au Théâtre Libre. Alors, le Théâtre Libre, c'est le nouveau nom du Théâtre Comédie à Paris.
Merci.
Voilà, pour situer, c'est très facile, c'est le théâtre qui est juste en face du KFC à Strasbourg-Saint-Denis. Juste à côté, il y a les magasins de coiffure afro, Lambert Sisgourde Porte, il va jouer à Alceste avec des tresses collées, ça va être très sympa.
J'achète mes perruques.
Voilà, le bon filon.
C'est vrai, en plus.
Mais oui,
c'est vrai. Avec le strigaplume.
Je peux vous donner tous les prix, mais je fais des fêtes perruques. Oui.
Ah, d'accord.
Il y a des très bons modèles à partir de 10 euros, c'est super.
Ok, avec franges, couleurs, ça,
Oui. C'est du synthétique ou du cheveu naturel à ce prix-là?
À 10 euros, c'est pas du cheveu naturel.
D'accord,
non, ou alors c'est suspect, je veux pas savoir.
Les cheveux de Daniel.
C'est Agnès Varda, comme père.
Donc revenons au misanthrope. Oui. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoignent, un misanthrope, c'est une personne qui a une aversion pour le genre humain. Et en préparant l'émission, j'ai compris, je me suis dit, putain, c'est évident, en fait... En écrivant le misanthrope, Molière, il a écrit une pièce d'anticipation. Le misanthrope, il hait l'humanité et tout le genre humain sans distinction. Il dénonce tout ce qui bouge. En fait, le misanthrope, c'est quasiment Éric Zemmour. Ou plutôt, c'est l'inverse. C'est Zemmour qui copie depuis le début. Mais moi, maintenant, j'ai envie que quand Éric Zemmour, il rentre sur un plateau de télé ou dans un studio de radio, on balance ça. Voilà, clac, il rentre, il fait une petite démarche, il danse, tu fais un sampler avec Zemmour, c'est plus la même histoire. Non, non, je te jure, ça change tout. Par exemple, imaginez qu'ils disent, je pense que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs ou arabes. Voilà, ça a quand même une autre gueule. Alors attention, je dis pas que Éric Zemmour, c'est Alceste déjà, parce que Éric Zemmour et Jean-Luc Misanthrope, Alceste, il leur baptiserait Michel, parce que mais Alceste, c'est grec, donc forcément, comme prénom, il changerait. Non, mais on est là à le critiquer dès qu'il ouvre la bouche, alors que le mec, il passe sa journée à rendre hommage à Molière. D'ailleurs, on devrait même, vous savez quoi, lui offrir une émission sur Inter, Éric Zemmour. Allez, on dégage Boomerang et Augustin Trapenard, on lui ferait Flashball, la culture bien française qui t'en met plein les yeux. Et voilà, bim. Alors, je vous prie d'accepter toutes nos plus plates excuses, cher monsieur Zemmour, vous l'amoureux de Molière. J'ai peu de certitude, en revanche, mais je pense que votre pièce préférée, c'est pas les femmes savantes. Allez, bonne émission.
Merci, Tom Villa.
Merci Tom. Lambert Wilson, justement, est-ce que vous avez mesuré votre degré de misanthropie, vous, au contact de ce personnage?
Pas au contact du personnage, bien avant.
Bien avant,
le
bon
degré de misanthropie, je le mesure, hélas, de plus en plus chaque année. Oui, c'est-à-dire que dans la pièce, il y a deux personnages qui se répondent, qui sont un peu, d'ailleurs, deux versions de Molière. Molière s'est mis dans le misanthrope, mais il s'est aussi mis, et surtout, dans son ami, philosophe, Philinte, qui finalement accepte les faiblesses humaines avec philosophie, il considère que c'est partie de la nature humaine d'être imparfait. Et j'étais plutôt Philinte il y a quelques années, et je deviens plus Alceste maintenant. Je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait...
Plus personne ne vous adresse la parole, vous avez fait ça comme un indice.
Vous avez vu, ne serait-ce qu'en 10 ans, comme ça a changé, comme le monde a changé, comme apparaissent des personnages qui prennent des décisions fatales pour l'avenir de l'humanité ou l'avenir de la planète, et qui sont élus. Ça ne me réconcilie pas beaucoup avec l'humanité. Cela étant dit, je ne suis pas Alceste puisque je viens au rendez-vous du théâtre. C'est-à-dire que la joie que ça m'apporte de jouer devant un public... existe. J'aime cet exercice-là, ça veut dire que je ne suis pas du tout prêt encore à partir dans mon désert.
Oui.
J'en ai une petite, pas une nostalgie puisque je n'ai pas vécu, mais peut-être je formule ce rêve, comme on parlait de l'Amérique du Sud. Mais je suis trop sociable, j'aime la troupe en fait, et c'est ça, je pense, qui me rapproche beaucoup de cet esprit moliéresque. Ce qui me plaisait dans la famille qu'on a formée avec mon père et aussi mon frère, c'est le côté, on peut survivre en faisant des spectacles sans argent, même. Mm-hmm. Il y a un moment donné, si on sait jouer la comédie, si on a un instinct pour faire de la mise en scène et quelqu'un qui sait coudre 3 costumes, on pourra faire du spectacle. Ouais. Et ça me donne de la joie. J'aime ça malgré tout. Et ça veut dire aller à la rencontre des gens. Mm-hmm. Si on le déteste, on ne va pas leur proposer des spectacles.
Et endosser ce costume d'Alceste, le misanthrope, c'est aussi accepter les choix de mise en scène de Peter Stein, à savoir, on a parlé de la perruque tout à l'heure, boulevard de Strasbourg, face au Théâtre Libre, c'est la perruque, c'est le costume. Et là, c'est aussi un choix qui se fait pas forcément systématiquement quand on décide de monter un Molière aujourd'hui. On a cette tentation d'aller moderniser un petit peu la mise en scène et donc l'accoutrement des acteurs.
Peter Stein est un monsieur très, très expérimenté. Il a 81 ans, il a fait 1000 mises en scène. Il a créé un théâtre national à Berlin, extraordinaire, la Schaubühne, qui est un théâtre pratiquement communiste dans sa conception. Tout le monde était à niveau égal, les acteurs, les assistants, etc. Il a tout mis en scène. Il a l'humilité de considérer que la chose la plus importante dans le misanthrope, c'est le texte de Molière. Il n'a pas envie d'inventer des choses à tout prix, de donner une forme qui soit révolutionnaire, parce que son travail consiste à mener des acteurs vers la compréhension du texte et à révéler ce texte devant un public contemporain. Alors, il l'a laissé dans le 17e, parce que pour lui, c'est même pas une question. Le plus important, c'est le travail sur la langue et comment
la compréhension du texte.
Oui, et aussi comment ces acteurs vont incarner ces personnages dans le vide. La plus grande difficulté qu'il nous demande, c'est de nous retirer tout support d'accessoires, de meubles, etc. Il y a les fameuses 6 chaises, parce qu'il y a un salon à un moment donné, celui de Célimène. Il exige de nous le plus difficile. Parfois, j'ai lu quelques réserves sur sa mise en scène, qui est classique, bien entendu, elle est classique, mais c'est un pari fou, en fait, de demander à des acteurs d'être dans le vide d'un décor sans meubles et de simplement incarner un texte et de lui donner toute sa modernité simplement par le respect de la langue, la compréhension de la langue. Pour beaucoup, c'est réactionnaire. Je trouve qu'au contraire, c'est...
ça va dans le sens du texte, sans artifice.
C'est une proposition généreuse et humble. Mmh. C'est pas de la paresse du tout.
Ouais.
Parce que finalement, on a bossé comme des fous pendant 2 mois. Et alors, effectivement, les gens sont habitués à voir des tanks sur les scènes, ou des gens qui font l'amour, ou alors surtout de la vidéo. Alors, effectivement, il n'y a pas de vidéo. On ne voit pas Célimène dans son boudoir en train de se maquiller avant d'entrer en scène.
En tout cas, ça manque de tanks et de gens qui font l'amour. C'est ce que je me suis dit à un moment. Vous parlez d'humilité et de travail. Ben là, aucune humilité, beaucoup de paresse. Guillaume Guillaume.
Allez, débrouille-toi.
Ça va les amigos ?
Mais oui, ça va.
Ouais. Alors je vais profiter de l'absence de Nagui, qui est toujours à Mossoul, pour l'enregistrement d'un N'oubliez pas les paroles spécial État islamique avec Louane et Richard Cochet. Il nous aura avec sa nostalgie, le con. Ah, le con. Ah, je vais parler de l'importance du sommeil ce matin, et c'est bien parce que, avec Nagui, en fait, quand Nagui il est là, en fait, ce qui est bien, c'est que, en fait, il pose des questions qui sont tellement longues que moi, ça me permet de faire des micro-siestes de 5-6 minutes. Je peux pousser jusqu'à 8-9 minutes quand Nagui répond lui-même à ses propres questions. Mais c'est plus complexe de dormir quand Leïla et Daniel sont à la présentation, Daniel c'est un super sniper, mais comme il a peu de vocabulaire, en fait, quand il présente, il doit se limiter à des questions du genre « Et vous, ça va ?» Sinon, ce film et autres, tu as déjà mangé ? Enfin, des trucs. Alors que Leïla, elle est bon, Leïla, on va dire, elle est plus affûtée intellectuellement, mais comme elle prépare rien, que la culture ça l'emmerde, en fait, elle est plus sur des questions ouvertes, genre Lambert Wilson, racontez-nous votre parcours, merci. Alors, moi, ça m'arrange pas pour mes micro-siestes. Et du coup, parce qu'en fait, les dernières études scientifiques en date montrent que la privation de montrent que la privation de sommeil, eh bien, figurez-vous, c'est très mauvais pour la santé. Allez !
Et l'articulation !
C'est très mauvais pour la santé. Allez, quoi, si,
c'est mort, sous la table.
C'est
mort.
C'est mauvais pour la santé. Ouais. Et...
Vas-y, reprends.
Non, mais je sais, les études sur la santé, c'est le truc le plus prévisible au monde, en fait. C'est les comédies romantiques de la science, tu vois. Tu lis le titre et tu sais qu'à la fin, Jacqueline et Gérard, ils vont ken. Il n'y a jamais de surprise. À la fin d'une comédie romantique, c'est jamais Jacqueline qui met une droite à Gérard en lui disant, je te file le sida. Clap générique de fin. Jamais, toi. Tout le monde qui fait, elle a bien changé, Anaïs de Moustier. Non, mais jamais. C'est pareil ici. Tu lis une nouvelle étude sur l'impact du sommeil. Tu sais, quoi. Tu sais que les mecs, ils vont pas te dire, on a bien réfléchi. Une bonne insomnie, tu vois, vraiment. Ça, c'est 2 heures par nuit. C'est assez l'idéal. Pour être frais comme un pamplemousse, eh ben, c'est de dormir bien bourré devant Mad Max avec des nachos. Vraiment, jamais ils te disent ça. Les scientifiques et les médecins, ils te disent toujours des trucs genre oui, pour être en bonne santé. Ce que je conseille moins. Alors, je sais que c'est peu orthodoxe. Mais bien dormir.
Ouais.
Une alimentation saine. Ouais. Une activité physique régulière. Okay. Ne pas fumer. Et réduire sa consommation d'alcool.
Quelle audace.
Ça risque de faire hurler les confrères, mais vraiment, c'était là. Ok, mec. Les scientifiques, ils ont un petit côté, l'eau, ça mouille, les œufs, ça casse, le vent, ça ébouriffe, qui me donne envie de crever dans un bulot, quoi, vraiment. Et, mais il y a un truc qui calcule pas, c'est que.
Crever dans un bulot.
Il y a un truc qui calcule pas, ces gens-là, c'est qu'en fait, chaque fois qu'ils nous stigmatisent, nous, les gens qui ont des hygiènes, qui avons des hygiènes de cultivateurs d'herpès, nous, les gens qui nous disons, on dormira quand on sera mort. Oui, et par rapport à ton cancer. Oui, en effet, c'est relou. Mais ben, à chaque nouvelle étude qui nous dit qu'une vie en fait, c'est mieux qu'une vie malsaine, et ben nous, ça nous déprime en fait. Et la dépression, les études le prouvent, c'est mauvais pour la santé, vraiment. Et c'est vrai, là, par exemple, là, j'ai lu que l'ADN, et ben, chaque nuit, s'endormir endommage un peu ton ADN. Vraiment. Donc, ouais. Et moi, je me suis dit, putain, si chaque nuit où moi j'ai pas dormi, mon ADN a été endommagé, mon ADN doit avoir une de ses gueules. Mon ADN, c'est Jean-Pierre Castaldi, quoi. Vraiment, c'est... avec l'ADN que j'ai, si je fais un gosse un jour, il aura des mutations de bâtard. Il aura le coude à la place de la clavicule, l'anus dans le cuir chevelu, ça va être une bête de foie. Vraiment. 9 chances sur 10, il va lui manquer un organe. Mon enfant, ça va être un truc horrible. Vraiment. Donc voilà, je m'adresse à la communauté scientifique. Je crois qu'on a tous capté que vous bossiez pour le lobby des asperges. Pas de jugement de valeur. On doit tous gagner notre croûte. Mais faites un effort. Donnez-nous au moins des petits bonheurs alternatifs. Genre, certes, manger des légumes verts te fera vivre quelques années en plus, mais manger une pizza te permettra d'apprendre quelques mots en italien, tel Regina, qui veut dire reine, prosciutto, qui veut dire jambon, ça te permettra de te faire accepter plus facilement par la communauté italienne la plus proche de ton domicile. Certes, faire du sport te permettra de fluidifier tes artères, mais faire du sport, c'est peut-être aussi faire du sport en Russie, dans une coupe qui concerne le monde. Tu joues contre un beau petit pays, par exemple, tu bétonnes derrière, tu vois. Et après quoi, tu te rends compte que t'es une merde et t'es dans la haine de toi-même, tu vois. Comme la France, par exemple. Eh bien, j'ai dit dépression, mauvaise santé, peu de sommeil. Donc je vais tenter de faire une micro-sieste.
Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume Audis.
Bonne nuit. La bande originale.
Je veux qu'on
J'ai
soit.
J'ai rien compris, mais ça
ouais.
avait l'air drôle.
Ouais, c'est ça. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
J'adore comme vous lissez les cils en
oui,
disant
en même
ça.
Temps, oui, c'est ça, c'est ça. Alceste dans ce Misanthrope de Molière à retrouver au Théâtre Libre. Alors, on préfère dire au Théâtre Libre.
Il faut dire le Théâtre Libre. Les comédiens n'existent plus, c'est Théâtre Libre. C'était le nom du théâtre qui avait été créé par Antoine, et le Théâtre Antoine est juste à côté.
Ouais.
C'est la même maison de production. Voilà, et c'est.
Et c'est dans le même quartier, en tout cas, ouais. À Paris, et c'est jusqu'au 18 mai. Jouez ainsi, comme ça, tous les soirs, le Misanthrope. Deux fois le samedi. On vous voit sur scène, c'est physique.
Ouais.
Vous
c'est dur le samedi, ça fait 1500 verres le samedi quand même, ce qui est beaucoup.
Alors, vous comptez en
fait,
les verres.
Je ne le dis pas tous.
Guillermo aussi.
Je ne les dis pas tous d'ailleurs.
Les bois sont
comment ça? Non, mais alors, la langue, c'est vrai qu'on s'en
c'est
est parlé juste avant.
La mémorisation.
La langue est difficile au sens où, oui, il faut arriver à tenir tout ce texte.
Non,
ça
c'est difficile.
Sur vous.
C'est difficile quand on l'apprend parce qu'on se rend compte que, c'est effectivement celle du 17e et qu'il a voulu aussi imiter un langage assez courtois de l'aristocratie. Tout est à l'envers. Et j'ai eu l'impression vraiment d'apprendre une langue étrangère. J'avais l'impression d'apprendre quelque chose en allemand où le verbe est à la fin. Et une fois que c'est acquis, ça va.
Et la difficulté pour Peter Stein aussi, alors ?
Alors, Peter Stein, son avantage, d'abord, il est linguiste, très passionné par les langues, la construction syntaxique, et il disait, si moi je ne comprends pas, alors les gens ne comprendront pas, je suis allemand, je suis con, et il faut que je comprenne. Si je... En fait, ça nous a aidés, parce que l'alexandrin, ça peut ronronner. Il y a un moment donné, l'acteur français essaie de faire ça, et se dit que de toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir un beau, une belle voix et tout ça. Non, il faut sculpter cette langue. Il faut faire sortir le sens d'un mot pour que la phrase soit compréhensible. Même si on perd 70% d'une phrase en entier, il y aura au moins un mot-clé. Ça, on a beaucoup travaillé sur ça. Mais c'est une belle récompense à chaque fois de sens. C'est-à-dire de se dire... c'est un peu une énigme. On se dit, surtout ce personnage de femme. Tous les soirs, je me dis, mais qui c'est cette Célimène? Elle est quand même. Il n'y a pas le jingle là
À la bouche. À la bouche, parce qu'on a plus de sous.
C'est bien les pièces qui vous résistent, les personnages qui vous résistent, qu'on n'arrive pas à résoudre comme ça.
C'est votre premier Molière en plus.
Oh, j'avais joué au lycée Trissotin dans Les Femmes Savantes. En 1843.
Voilà. C'est ça, oui.
Dans Alceste, la bicyclette, vous vous trompez toujours sur la même réplique au même endroit. Oui. Est-ce que là, du coup, là, vous avez...
Je l'ai fait en hommage au film quand le metteur en scène est venu.
Ah, c'est vrai.
Je lui ai fait ce petit cadeau de ne pas dire j'ai conçu pour elle une effroyable haine, mais je lui ai dit j'ai conçu pour elle une immortelle haine. Et il a eu très peur parce qu'il a eu l'impression que je revivais le problème du film et que donc j'allais avoir un trou comme dans le film. Et c'était juste un petit clin d'œil.
Alors, si vous voulez voir ce que c'est que sculpter la langue, vous avez jusqu'au 18 mai le Misanthrope Lambert Wilson au Théâtre Libre. On va revenir, Lambert, si vous le voulez bien, sur quelques dates importantes de votre parcours. On commence en 1958 et vous écoutiez.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête.
C'est en tout cas ce qu'on écoutait à la maison en 58,
voilà.
Votre année de naissance.
Oui,
c'est
oui,
surtout parce que je l'ai chanté récemment, un hommage à Edith Piaf dans le spectacle Sur mon temps, et que mes grands-parents adoraient Edith Piaf. Moi, j'adorais les manèges, plus tard. Et ma mère détestait Edith Piaf, et pour une raison intéressante, mes parents étaient très pauvres, vraiment très très pauvres. Et Edith Piaf, pour elle, incarnait... la misère des années 30-40. Et pour elle, c'était un rejet total. Elle ne supportait pas entendre Edith Piaf. Mais ses parents, elle l'adorait. Donc Piaf, c'était presque une sorte de bonbon de sucrerie caché à la maison.
Et quand vous parlez justement de moments difficiles, pas d'argent, c'est une phrase qui revient souvent dans la bouche de votre père. Qu'il faut souffrir, qu'il faut avoir beaucoup souffert
mais c'était surtout
sur scène.
Vous savez, c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup d'acteurs...
d'une génération
d'avoir du mal à boucler les fins de mois. Et il a distillé en moi cette inquiétude permanente face à la réalité économique. Peut-être j'ai été boulimique dans mon travail d'acteur parce que j'avais peur de manquer d'argent. Et ça avait été son cas. Lui, il a été découvert par Gérard Philippe. Il avait, 35 ans. Il avait vraiment eu des périodes de vaches maigres. Comme tous ces acteurs, tous les Rochefort et autres Marielle. Ils ont vraiment eu des débuts difficiles. Et voilà, mes deux parents étaient très très pauvres. Donc c'était ça surtout ce qu'il a. Mais il l'a fait inconsciemment et j'ai absorbé ça aussi inconsciemment.
Oui. C'est pour ça
et j'ai encore le même problème.
C'est pour ça que l'année sabbatique en réalité ça
n'arrivera jamais.
Sans doute. Il y a une peur assez profonde de la fin de tout, c'est-à-dire de vraiment de la misère. Mm-hmm. Ouais.
Et enfant, en lisant les interviews, ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est comment vous inventiez déjà un monde à vous. Vous disiez que vous étiez un peu mythomane, gamin.
Complètement même.
Oui, alors d'abord j'adorais les tout ce qui était contes de fées, les costumes, etc. Et un jour mon père m'a fait venir un jeudi au TNP pour faire de la figuration dans Hamlet. Je me souviens, et j'étais absolument persuadé que j'allais être joué un petit prince couvert de brocart, d'or, de velours, et il m'a fait jouer un paysan. Et ça a été une humiliation très profonde. Et je fantasmais beaucoup sur un train de vie qui n'était pas le nôtre du tout. Et je mentais effrontément à l'école. je disais qu'on avait des Rolls, qu'on voyageait tout le temps, etc.
Et avec votre frère qui cassait tout.
Et mon frère, lui, ne souffrait pas du tout de cette pathologie-là. Et en fait, j'ai été pris en flagrant délit à plusieurs reprises et j'ai appris la leçon de façon un peu brutale. Mais je mentais aussi pour faire comme les autres. C'est-à-dire, je mentais en disant que j'allais au catéchisme, je mentais en disant que j'étais baptisé, je mentais en disant que j'allais à la messe. Parce qu'il fallait être comme les autres. Mmh. Et mon frère s'en foutait complètement. Et il disait tout le temps, ben non, il va pas. Ben non, tu veux pas ton catéchisme. Non, 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 on n'a pas de Rolls, non. Il fallait en même temps être supérieur et normal.
Et normal, ouais, comme les autres.
En tout cas, si vous croisez Lambert Wilson et qu'il vous dit qu'il est comédien, là, c'est pas de la mythomanie, c'est vrai. C'est impressionnant, mais c'est vrai. On passe à 1974.
Ah oui.
C'est le moment du slow, les garçons. Ouais,
Barbara Streisand.
C'est dommage, je suis toute seule.
C'est pas grave. On attendra. Quoi? Et là qui veut danser.
Pourquoi cette musique, Lambert?
En fait, j'ai découvert le cinéma tout seul en allant à Paris depuis mon Rambouillet quotidien. Et le cinéma que j'ai découvert à cette époque-là, dans les années 70, c'était un cinéma américain assez romantique et politique, dans lequel les stars étaient Barbara Streisand, Dustin Hoffman, Robert Redford. C'était des films de Sidney Pollack, de Sidney Lumet. C'était des films qui étaient en même temps engagés, les Trois Jours du Condor, politiquement forts. Et puis en même temps, là, c'est la musique d'un film qui s'appelait Nos Plus Belles Années. Et je reste un dingue de Barbara Streisand parce que c'est une actrice, indépendamment de la voix, elle chante magnifiquement. Pour moi, c'est une actrice extraordinaire. Mm-hmm. Funny Girl, qu'elle a joué avec Omar Sharif. Mais elle est insensée, elle chante génialement, mais elle est une actrice comique et poignante. Elle vous touche, elle vous fait rire, elle est rigolote. Et donc, c'est un hommage à cette femme et à ces années-là.
C'est l'artiste complète et justement, la formation que vous avez suivie en 74, pour revenir à cette date, au Drama Center de Londres, c'est un peu cette vision-là de l'artiste complet où on joue, on apprend aussi un peu à chanter, on a un rapport aussi à l'anglo-saxonne, ouais. Et puis surtout un rapport à l'humilité du boulot.
En fait, j'y suis allé un an plus tard, mais on s'en fout, c'était surtout... les acteurs qui m'avaient vraiment, vraiment intéressé en dehors des Américains très, très stars comme eux, c'était des acteurs anglais que j'avais vus. Vous savez, il y avait ces séries à la télévision qu'on voyait le dimanche, c'était les Shakespeare en anglais. Et il y avait toute la série des rois, les pièces de Shakespeare. Et j'ai trouvé que ces acteurs étaient extraordinaires, c'était en version originale. Et puis il y avait des films dans les années 70 anglais, Sunday Bloody Sunday, des acteurs comme Glenda Jackson, Oliver Reed, Alan Bates, Julie Christie. Ces acteurs-là m'ont donné envie d'être acteur. Et j'ai voulu avoir leur formation et devenir bilingue au passage pour pouvoir plutôt devenir un acteur anglo-saxon qu'un acteur français.
C'est quoi une façon aussi de se distinguer de votre
père,
George Wilson ?
Non, j'allais pas au cinéma, je n'allais pas voir les films français quand j'étais adolescent, mais du tout.
C'est pas du tout votre culture.
J'allais voir uniquement, mais comme font les adolescents maintenant. Ils vont voir des films américains, ils vont voir des films spectaculaires ou des séries. J'ai ignoré totalement un pan de l'histoire du cinéma français des années 70. J'allais pas du tout les voir.
Mais c'est une façon aussi de se dire qu'on peut travailler partout quand on est dans ce rapport justement au travail, à pouvoir être sur scène.
Oui, après il y a le désir de se démultiplier par le côté international d'une carrière qui n'est offerte que par les États-Unis. Ça, c'est évident que c'est un vecteur de célébrité qu'on n'a pas en France ni en Europe. J'ai rêvé à ça pendant un moment et puis finalement, ça m'a paru complètement vain parce que je suis d'accord avec mon père qui me disait souvent, mais finalement, l'activité d'acteur, c'est très folklorique, c'est très lié à notre culture locale. Ça sert à quoi finalement de vouloir absolument chercher la notoriété mondiale? C'est pas très agréable.
Non, mais ça
on
sert
est mieux
en
payé,
tout.
J'imagine, mais en même temps, on a une vie qui est pourrie parce qu'on vous reconnaît partout. Ça va pas être très agréable.
Oui, mais en même temps, vous êtes Lambert Wilson, vous êtes aussi un héros d'un film culte pour Fred, au moins, c'est Matrix.
Ah bah, le Mérovingien, c'est sûr.
Ah, je croyais que vous alliez parler du Marsupilami.
Ah bah, c'est culte aussi pour certaines personnes, mais c'est sûr que le Mérovingien, il y a cette envolée comme ça, avec ce chapelet de jurons
qui est incroyable. Mais en même temps, c'était aussi un film des sœurs Wachowski, donc c'était encore des réalisatrices à part.
Qui étaient des frères à l'époque. Et...
Oui, mais on revient pas là-dessus, parce que je me suis déjà fait démonter sur les réseaux sociaux quand j'avais fait l'erreur. Donc,
c'est en les fait, Wachowski. Il faut dire que ces sœurs Wachowski, qu'on devrait dire Wachowska d'ailleurs, si on suit la loi polonaise, elles sont des génies. C'est-à-dire que elles ont réussi à instaurer dans un système de studio hollywoodien, et on sait ce que c'est vraiment, c'est totalement réactionnaire, ils veulent uniquement ce qui est populaire, efficace, ils mettent de l'argent pour en faire. Elles ont raconté cette histoire insensée qui a marqué complètement les esprits. Partout où je vais dans le monde, effectivement, on me parle de Matrix. Dès que les gens comprennent que j'ai joué le Mérovingien, les gens sont en état de choc, parce que vraiment, ça les a marqués. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles étaient comme des auteurs, des réalisatrices auteurs, dans un système où les auteurs n'ont pas de place du tout. Elles avaient, et elles ont toujours, les rênes absolues de la création, de la supervision artistique, dans un système où les réalisateurs n'ont pas leur mot à dire. Sinon, ils n'ont qu'à faire des images. Ils n'ont pas... et c'était très étonnant à cause de ça.
Et comment vous étiez retrouvé là-dessus? Alors, il y avait eu un casting?
Parce qu'ils voulaient un acteur francophone pour jouer ce personnage extrêmement snob, avec un accent français, et j'ai percé un casting, voilà, tout bêtement à Paris, puis ils m'ont fait refaire la scène à Los Angeles, voilà, de façon très traditionnelle.
Lambert Wilson en français à Paris, c'est dans le Misanthrope, au Théâtre Libre jusqu'au 18 mai. On allait l'applaudir vraiment, et nous a rejoint dans cette émission Charles Pépin, qu'on connaît bien ici. Bonjour Charles.
Bonjour.
Je vous représente éventuellement philosophe, écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres, traduits dans de nombreux pays. Le dernier d'entre eux, c'est La confiance en soi, qui est sorti récemment chez Alary Édition. Forcément, on va parler misanthropie ensemble.
Grand misanthrope vous-même.
Votre définition, votre définition, Charles, d'un misanthrope, c'est quoi? C'est un homme qui a été un jour déçu et qui a étendu...
Disons que c'est la définition qui me touche le plus, c'est-à-dire celle que donne Platon indirectement dans le Phédon. Il y aurait dans la misanthropie un idéalisme déçu. Et puis il y aurait aussi une faute de raisonnement. En général, c'est quelqu'un qui a été déçu par une personne et qui du coup se met à haïr le genre humain dans sa totalité, lui y compris. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui fait la noblesse du misanthrope, c'est qu'il ne s'exclut pas de sa détestation, à la différence du misogyne ou de la femme qui a de la misandrie pour les hommes ou du raciste. Le misanthrope se déteste autant qu'il déteste les autres, ce qui est quand même élégant. Voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, dans la figure du misanthrope, il y a une absence totale de confiance en l'homme, en soi et en la vie, d'où l'idée que peut-être un misanthrope absolu, au fond, n'existe pas. D'ailleurs, ce serait pas un personnage de théâtre, au fond, s'il était complètement misanthrope, s'il avait aucune capacité ou qualité de lien possible avec les autres. Et ça, c'est ce que dit aussi Rousseau quand il dit il n'y a pas de misanthrope absolu. D'ailleurs, je pense que Rousseau s'identifie à Alceste, au passage. Et d'ailleurs, il n'aime pas que Molière fasse trop rire.
Non, il aimait une version beaucoup plus romantique d'Alceste.
Oui. Sombre, mais il y a aussi peut-être quelque chose d'intéressant philosophiquement qui est qu'une certaine dose d'aigreur, en fait, ou de désabusement, finalement, rend intelligent et est aussi le terrain d'un émerveillement possible. C'est-à-dire, quand on ne croit plus en rien, on a des bonnes surprises, notamment l'amitié, l'amour, la beauté, l'émerveillement. On peut penser, par exemple, à la figure de Cioran, qui pourrait sembler être un grand misanthrope, mais qui, en fait, dans ses pages, on n'arrête pas de tomber sur des émerveillements, des éblouissements. Il est amoureux, il a des amis. Et donc, finalement, peut-être que ce serait aussi une sorte de ruse, la misanthropie, pour finalement se retrouver à aimer autrui ou à aimer la vie. Et c'est d'ailleurs un peu ce que Sartre aussi dit dans L'être et le néant, lorsqu'il dit, il faut suffisamment haïr les hommes pour être heureux de se découvrir les aimants, finalement. Comme s'il y avait comme ça du mouvement, et puis un terreau propice à l'amour, en fait, paradoxalement, ce qui est aussi l'histoire de la pièce.
Oui, c'est absolument ça. Et d'ailleurs, ça, c'est le panorama philosophique. Mais est-ce qu'un misanthrope dans la vie est forcément seul? Où il s'accommode un petit peu selon.
Le vrai misanthrope serait seul.
Est-ce qu'il y a des vrais misanthropes, vraiment?
S'il n'y a pas de club de misanthropes, autrement, c'est qu'ils ne sont pas. Je pense que la solitude, normalement, est le lot du misanthrope. Mais si on définit l'homme par ses liens, ben, c'est quand même la définition la plus acceptée de l'humain. Il est défini par les liens qu'il a avec son environnement. Ce que disait un peu déjà Aristote, c'est l'homme est un animal de lien, un animal social. Alors, on peut pas être misanthrope sans être exclu, finalement, de l'humanité. Donc, du coup, au quotidien, il devient fou, dans ce cas-là. S'il est vraiment complètement misanthrope.
Les causes de la misanthropie, tout à l'heure, Lambert nous disait qu'avec le temps, l'âge aidant et voyant certains choix électoraux, certaines gestions politiques de la planète à plus ou moins grande échelle, il pouvait être tenté vers une forme de misanthropie. Oui. Quelles sont les raisons qui poussent à ça?
Vous savez, ça, ce serait une raison, on va dire, un peu philosophique. Ce serait la lucidité. quand on voit effectivement les figures que vous évoquez, on a plus trop confiance en l'humanité. Après, on peut opposer à cette raison philosophique une raison plus psychanalytique, c'est-à-dire des blessures d'enfance, évidemment, et une enfance difficile. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça n'empêche pas... Il y a une phrase d'Alain qui dit très bien ça. Il dit on peut être pessimiste d'humeur et optimiste de volonté. C'est-à-dire qu'on peut avoir pas beaucoup de version idéale de l'humain. On peut être très désabusé. On peut penser que l'humanité va plutôt dans le mauvais sens. Et sur la base de ce pessimisme intelligent, au fond, lucide, eh bien, agir pour améliorer les choses. Donc voilà, pessimisme d'humeur, optimisme de volonté.
Moi, je prends du Prozac, ça marche très bien.
C'est ça. Bon, alors, voilà, avec modération. Est-ce que plus on vieillit, plus on est misanthrope? Est-ce que c'est lié à l'âge aussi?
Franchement, je ne crois pas. mais je voudrais quand même insister sur le fait que peut-être, plus on vieillit et plus on a d'espérance déçue, ouais, plus aussi l'émerveillement, quand il survient, est fort. Et on voit ça chez Schopenhauer, chez Nietzsche, chez tous ceux qui pourraient sembler un peu misanthropes. Ben finalement, ils ont une capacité d'éblouissement plus forte que les autres. Et d'ailleurs, Alceste, il est quand même très amoureux à sa manière. Donc,
absolument.
C'est quand même intéressant.
Et son futur n'est pas forcément noir. La pièce se termine sur quelque chose d'assez effrayant, parce qu'on a l'impression que c'est une vie de solitude qui s'ouvre à lui. Oui. Et en fait, c'est aussi un futur. Et c'est aussi un futur qui peut être... positif,
radieux, ouais,
le conduire sur des rives totalement différentes.
Fred, ouais.
Est-ce que dans la misanthropie, il n'y a pas aussi ce culte de l'orgueil personnel, c'est-à-dire de se voir comme quelque chose d'absolu qui ne peut pas changer? C'est-à-dire, moi je suis comme ça, vous me prenez comme je suis et pas autrement, et c'est à vous de faire un pas vers moi plutôt que moi qui dois faire un pas vers vous.
Alors ça, c'est très intéressant, ce que vous dites, il y aurait une sorte d'essentialisme. Je serai défini par l'absolu de ma misanthropie. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que c'est un grand personnage de théâtre, c'est parce qu'il incarne cet absolu. Maintenant, je pense que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et heureusement, on est beaucoup plus souple. Il vaut mieux être existentialiste qu'essentialiste. C'est-à-dire, je peux avoir des moments où j'ai un affect très misanthrope et à la limite, je l'accueille, c'est très bien. Et puis après, je me laisse gagner par l'amour, l'altruisme, à d'autres moments. Donc, je pense qu'il faut refuser cet essentialisme. D'ailleurs, en général, dans la vie, il faut refuser de se laisser étiqueter, de se laisser définir, de se laisser essentialiser. Au fond, la liberté, c'est de refuser ce genre d'étiquette absolutisante.
Et comment notre petite tendance, éventuellement, qui nous concerne peut-être tous, à la misanthropie, se traduit-elle au quotidien? Dans la pièce, on voit que Alceste ne parvient pas à masquer son avis concernant les vers d'un de ses camarades qui vient les lui présenter à domicile. Comment est-ce que ça se matérialise dans notre société aujourd'hui, cette...
Ben par exemple, je crois par l'ironie. Ouais. Une ironie un peu mortifère, un peu cassante, peut être une expression de cette misanthropie. Et je crois qu'il y a un remède à ça, c'est la joie. La joie, c'est toujours une façon d'accepter les choses comme elles sont, alors que l'idéalisme, c'est de les vouloir meilleures qu'elles ne sont. Et donc justement, l'idéalisme, une fois qu'il est déçu, rend misanthrope. Donc si on commence par ne rien attendre et par aimer le réel comme il est, ce qui s'appelle la joie au sens philosophique, alors on a, je crois, une jolie antidote à la misanthropie qui nous guette tous.
Voilà, vous avez un remède. Et parmi les misanthropes célèbres, au-delà de ceux qu'on peut voir représentés sur une scène de théâtre, est-ce qu'il y a des grandes figures identifiées comme misanthropes dans l'histoire?
Dans la littérature, il y en a.
Le top 5.
Bien sûr, Léon Blois, par exemple. Ouais. Mais c'est une misanthropie qui est très drôle, c'est le paradoxe. Il est misanthrope, il est d'une rosserie, d'une méchanceté, Léon Blois, le grand pamphlétaire, et en même temps c'est très drôle, et donc il en devient sympathique.
Exactement, comme Houellebecq un peu. Hein.
Voilà, de façon plus contemporaine, Houellebecq.
Il est plus misogyne que misanthrope en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, on voit bien avec ces exemples-là, Léon Blois, Houellebecq, Cioran, qu'en fait Bukowski, ils sont pas dans l'absolu de la misanthropie. D'ailleurs, ils aiment la littérature, et c'est ce que je dis depuis
ils ont des amours.
Depuis le début, c'est que c'est comme si cette misanthropie un peu dark, un peu fondamentale, elle était un très bon terrain pour en sortir précisément et de nouveau s'étonner, s'émerveiller. Produire aussi une œuvre d'art, accessoirement.
Tom évoquait Éric Zemmour tout à l'heure pendant sa chronique.
Je pense pas qu'il mérite de déjà d'être évoqué si souvent.
Au niveau de ces gens-là.
Mais surtout d'en faire un personnage.
C'est voilà. Insulter ces génies que de le mettre à ce niveau.
Oui, d'ailleurs, vous savez, il y a une phrase de Suran très jolie qui dit « On écrit avec ses hontes ». Et d'ailleurs, tous les exemples qu'on cite, ça va un peu dans ce sens-là. Et en ce sens, peut-être qu'ils ont des hontes qui les ont rendus misanthropes, mais à partir du moment où ils écrivent et des choses si belles, je pense à Houellebecq ou à Suran, ou à Léon Blois d'ailleurs, il y a quelque chose, au fond, comme une... ça nous montre bien qu'on peut pas être humain sans avoir encore un petit peu confiance en l'homme, finalement.
C'était beau. Ça méritait un silence, là, tout d'un coup, là, quand Charles Pépin pose les termes.
Ça mérite même une petite virgule, je trouve.
Ouais. Merci beaucoup, Charles Pépin. Je rappelle que vous avez fait paraître La confiance en soi en mars 2018, donc c'est assez récent chez Alary Édition. Et on attend la suite encore.
Merci, je vais m'y mettre.
Bon, merci beaucoup, Charles.
Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour, Tanguy.
Bonjour, Daniel.
Tanguy, j'ai une petite confidence à vous faire.
Oui.
Je me sens un petit peu émoustillé ce midi.
Ah, mais Daniel, c'est normal. Avec Leïla, vous avez pris la place de Nagui. Donc, on vous regarde plus de la même manière. Ah. 80% des gens du public veulent votre corps contre 2% habituellement. Une fidèle auditrice malvoyante. Alors, pour tous ceux qui, comme vous, sont hot, bonne nouvelle. En Bretagne, un club coquin est à vendre sur Le Bon Coin.
Ah ouais. Bah, on se retrouve juste après les infos. Non, pas tout de suite. Parce qu'on va continuer à parler avec Lambert Wilson de ce Misanthrope qui est au Théâtre Libre jusqu'au 18 mai. Allez-y, je vous en supplie.
Retour de la bande originale sans Nagui, la BO qui sourit à la vie, mais avec Albert Algou.
Bonjour.
Guillermo Guise. Tom Villa. Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Dans quelques minutes, Tanguy Masturo. Pour maltraiter l'info. Et bien sûr, Leïla Kaddour, Boudetti.
Et notre invité, Lambert Wilson.
Oh Lambert.
Il est resté.
Lambert, restez avec nous et on le retrouve sur scène au Théâtre Libre jusqu'au 18 mai dans le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux, une mise en scène signée par un grand metteur en scène allemand, Peter Stein, avec toute une troupe qui vous entoure qui est vraiment géniale. On va les citer pour leur tirer un coup de chapeau. C'est Jean-Pierre Malo, Hervé Briot, Brigitte Catillon, Pauline Chevillé, Manon Combes, Paul Mintz, Léo Dussolier, Patrice Dozier, Jean-François Lapalu, Dimitri Vio. Voilà, je les ai tous énoncer tous vos camarades, cette belle troupe qu'on retrouve au Théâtre Libre avec cette personnage d'Alceste qui est en crise, qui est amoureux de Célimène, qui est l'archétype de tout ce qu'il déteste dans la société, qui est capable de faire preuve de mondanité et d'usage comme ça en cours à l'époque et qui lui ne parvient plus à ne pas dire ce qu'il pense sincèrement, la vérité, éviter ses masques, ce jeu de dupes qui gangrène selon lui le monde dans lequel il vit, Lambert Wilson.
On pense qu'au départ, Molière a vraiment voulu critiquer
la cour,
ce qui est complètement fou, c'est d'imaginer qu'il a joué cette pièce avec sa troupe devant la cour. Il prenait un risque complètement fou, tout en étant vraiment le grand divertisseur du roi.
Risque qu'il prend en plus en 1666, après avoir joué le Tartuffe, qui a fait qu'il était dans une position assez délicate, même.
C'est fou parce que dans la pièce, un des prétendants de Célimène lit un poème et demande son conseil à Alceste. Le poème est ridicule. le poème est inepte et Alceste va lui faire comprendre assez brutalement à un moment donné. Et quand l'acteur a joué pour la première fois devant la cour des aristocrates et du roi, à Versailles, les gens ont applaudi le
sonnet.
Le sonnet. Et voilà ce qu'il a eu à faire face. Enfin, c'est compliqué. En fait, elle est typique, cette Célimène, des manières de l'époque. Mais le ressentiment d'Alceste dépasse les manières de la cour de l'aristocratie. C'est quelque chose qui concerne l'homme en général. On a entendu Monsieur Pépin tout à l'heure en parler brillamment. Je pense que il y a une déception chez lui. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et peut-être finalement, il est particulièrement en crise sur l'humain. Parce qu'il est malheureux en amour aussi, et qu'il se déteste aussi un peu lui-même. Il a perdu espoir, je crois, et tout le dégoûte. En plus, il est pris dans une affaire légale dans laquelle il y a tricherie. Hein. Et ça, c'est... voilà, Molière, ce qu'on dit souvent, comme les très grands auteurs, et ils sont rares, du niveau de Shakespeare ou des grands tragiques grecs, a vu quelque chose de l'humain qu'on retrouve siècle après siècle après siècle. Et
voilà,
les gens
remonte,
me disent en sortant...
Voilà pourquoi on remonte des pièces comme ça, parce que c'est indémodable.
Le public, quand on dit les misanthropes, oh, ok, c'est un classique. On va... Mais ils sortent à chaque fois excités par la modernité du sujet. Alors, avec toutes les crises sociales et les désamours qu'il peut y avoir entre les politiques et la population, mm-hmm. les gens ont l'impression que la pièce parle de la situation française du moment. C'est très étonnant.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille qui amènent leurs enfants pour voir la pièce.
Oui, alors c'est assez... parfois on entend même des gazouillis de tout petits enfants. Ça met pas toujours ça dans les théâtres. Je comprends pas comment les gens font venir des bébés presque. Mais les enfants qui traînent les pieds, faut leur dire si jamais il y en a qui écoutent.
C'est pas la majorité de nos auditeurs.
Non, mais en tout cas ceux qui ont des enfants et surtout des adolescents, il faut qu'ils sachent que c'est une, il y a une récompense là avec ce texte, ouais. parce que c'est divertissant et c'est philosophique, et ça marche, quoi, et ça les excite.
Il y a une récompense là tout de suite avec Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez nous parler du Bon Coin.
Oui, le Bon Coin, c'est ce site de petites annonces délirantes qui permet d'acheter et de vendre n'importe quoi. Sa maison, son bateau, sa voiture, sa mère. J'ai moi-même décidé de vous y vendre, Daniel Morin.
Ah bon ?
Une dame a accepté de mettre 9 euros dans cet achat. Elle s'appelle Monique et vous attend à 12h30, porte B de Radio France.
J'y serai, Monique.
J'ai perdu mon chat Pupus récemment, m'a-t-elle écrit. Ça va faire du bien d'avoir de nouveau une petite boule de poils à chouchouter. Alors, sur le Bon Coin, on trouve de tout. Sachez qu'il y a un bouquin de Frédéric Sigrist à 4 euros.
Ah ouais ?
Pour 30 euros, vous pouvez acheter deux places pour Guillermo Guise à Colmar le 2 mars. Bonne affaire, parce que chaque ticket est à 20,90, donc vous faites pas couillonner. Tom Villa, ne cherchez pas, parce que l'algorithme du Bon Coin est nul. Du coup, c'est véridique, vous tombez sur des villas. Vous vouliez un DVD sympa pour votre tati, vous cliquez sur acheter, vous vous retrouvez avec un F7 de plein pied avec piscine, endetté sur 30 ans. Quant à Lambert Wilson, il y a plus de 16 000 résultats. Marie-Aimée de Butry-sur-Oise vend notamment une photo argentique de vous, développée, écrit-elle, en 88, ce qui fait que le brillant du papier est altéré par le temps.
Oh,
alors je suis rassuré, parce que moi je l'ai vu, je trouvais que vous aviez une mauvaise mine. Hein. Je me disais, mais pourquoi vit-il avec ses taches de café sur le visage ? Et le pauvre, il est tout plié. Mais en fait, c'était juste la photo. Mais tout ça, on s'en bat les steaks de soja, comme disent les vegans.
Oui.
Car vient d'être mis en vente sur le Bon Coin un club libertin, le Double Jeu à Fougères, en Ille-et-Vilaine.
Aïe,
département
aïe.
Qui, quand on prononce son nom avec un accent salace, est déjà à la fois excitant et terriblement transgenre. Illustration, Ille-et-Vilaine.
Ah.
On imagine déjà Laurent Deutsch en cuir en train de nous frapper avec la tranche de son livre hexagone.
Oh,
alors que Puy de Dôme, ça tombe totalement à plat. Bref, le Double Jeu à Fougères cherche sur le Bon Coin un repreneur et l'affaire tourne à fond. Il débite de la soirée haute comme les usines philippines des petites tours Eiffel en toc. Rien qu'en mars, 12 soirées sont prévues. Le 1er mars, il y a la soirée Prends-moi, qui a le mérite d'être explicite. Autant Nuit de la Saint-Sylvestre, c'est vague, y aurait-il du saumon fumé ? Est-ce que Mamie sera là ? Autant la soirée Prends-moi, on sait qu'on vient pas pour tricoter des moufles. Le 8 mars, c'est soirée topless, les dames sont seins nus. Le 15 mars, soirée Séduis-moi. Pour ceux qui ont trouvé la soirée Prends-moi, un peu brutal. Ces pleu-pleu qui ont besoin de voir le regard de l'autre pour être émoustillés. Tout ça parce qu'un jour, Frédéric Lopez a expliqué à la tribu des Tibi-Tibi du Costa Rica que le regard, c'était le miroir de l'âme. Le 16 mars, c'est véridique, hein, tout ça, c'est soirée british. Le concept est flou. Hein, je pense que les convives commencent. Puis Swazik Join, la sosie bretonne de Theresa May, arrive et crie stop, c'est le Brexit, on va devoir se retirer. À noter que le 9 février, il y avait la soirée Nouvel An chinois. Hein, c'est bien vu de leur part, puisque c'est l'année du cochon. Si l'an prochain c'est celle du cheval, ça risque d'être très très chaud. Hein, il y aura partenariat avec le Hara du coin. À minuit, 12 poneys excités brouteront le saladier à carottes râpées du buffet, tandis que les coupe ses patrons sous un immense poster vintage de Pierrette Bresse.
Donc Leïla voudrait savoir combien coûte ce club coquin qui est en vente sur le Bon Coin.
Eh bien Daniel, 69 000 euros, ce qui n'est rien, c'est
Leïla,
le prix
c'est
d'une place de parking
69,
à Paris.
69, c'est curieux
voilà.
Comme prix.
C'est le prix d'une cave à Londres,
mille fois.
Certes, d'un palais ducal en Albanie. Mais pour ce prix-là, il y a tout. Alors l'annonce précise Piste de danse, cage, hein, on peut se faire enfermer.
Piste de danse.
J'ai entendu comme vous l'embêtez.
Alors cage, hein, on peut se faire enfermer. Alexandre Benalla, par exemple, s'il souhaite ne pas couper trop brusquement avec les habitudes qu'il a récemment prises, peut se mettre en cage au double jeu. Il y a 7 coins câlins, 4 douches, mais aussi une machine à laver et un sèche-linge. Hein, pour ceux qui n'ont pas réussi à retirer à temps un jean trop slim, qui ont crié « Non, attendez, par pitié !» lors de la soirée « Prends-moi !» mais que personne n'a écouté. Alors, les gérants des lieux se séparent de l'établissement, disent-ils, pour raison de santé. Il faut les comprendre, le métier est difficile. Prenez la soirée topless, à 4h du matin, il faut retrouver tous les soutiens-gorge, aller chercher sous les meubles, il y a Jean-Paul qui a mis la chaussette de Stéphane, il faut courir le chercher sur le parking, d'autant qu'il a aussi enfilé le petit top de Nathalie. Enfin, une fin de soirée coquine, c'est comme un bac de fringues chez Emmaüs, sauf que ce sont des gens nus qui fouillent dedans, en disant « si je rentre en jupe alors que je suis arrivé en costard, elle va se douter de quelque chose, ma femme ». Alors, le club, le double jeu de fougères, coûte donc 69 000 euros sur le bon coin. C'est un bail commercial, toute activité, on peut le transformer. Ah ouais. Seulement les bouddhistes vous le diront, ou les hindouistes, je sais plus. Enfin, si ça se trouve, en fait, c'est Stéphane Plaza qui a dit ça. Tout lieu garde la mémoire de ce qui s'y est passé avant. Donc, si demain vous ouvrez un biocoop, et qu'à l'heure de l'ancienne soirée, prends-moi, au rayon fruits, les bananes se dressent, tandis que les capsules des bouteilles de bière bio explosent, faisant jaillir le nectar ambré, il faudra pas venir se plaindre. Le lieu doit donc rester un club coquin. D'autant que je connais un peu le coin, à Fougères, il y a le château à voir, mais enfin c'est comme le vote Jean Lassalle, ça se fait une fois. En août, il y a le petit train touristique, et basta. Vous voulez faire un bowling, c'est dans le jardin, il faut avoir des quilles. Alors qu'un sexe, tout le monde a un sexe. Par conséquent, le club libertin est le seul loisir de Fougères. Tout le monde s'y retrouve. Le maire, la pharmacienne, le facteur, le curé. Quand il y a les autotamponneuses, on dit aux forains, venez, on a un truc à vous montrer. Si vous avez 69 000 euros, donc achetez-le. Sinon, pour 30 euros, vous avez Pierre Leguise à Colmar. Par contre, c'est plus habillé. Ou alors, c'est qu'il a pas mal modifié son spectacle.
Bravo, Tanguy Pastion.
Je crois que Lambert Wilson est acheteur, ça y est.
Bah, on peut faire une cagnotte litchi.
Bah, on peut se cotiser, ouais, absolument.
Non, mais ce qui m'épate, c'est surtout que la ville n'est pas très grande. Donc, à un moment donné, tout le monde doit s'y retrouver.
C'est ça qui est bien. J'en profite évidemment pour embrasser Monique. Je serai au rendez-vous tout à l'heure à 12h30. Lambert Wilson est avec nous jusqu'à 12h30, justement. Il est dans le Misanthrope jusqu'au 18 mai au théâtre Libre Les Habits. Curtis Mayfield, Move On Up. Ça nous laisse le temps d'aller tous jeter un œil sur le bon coin. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Just move on up to a greater
ask a little faith. If you put your mind to it, you can surely do it.
Comme un air de vacances sur France Inter, ça tombe bien, c'est les vacances avec Curtis Mayfield. Oui, et puis pour occuper aussi vos vacances, venez donc à Paris, si vous n'êtes pas parisien, pour voir Lambert Wilson dans Le Misanthrope de Molière ou La Trabilaire amoureux au Théâtre Libre, mise en scène de Peter Stein.
Lui aussi, il déteste tout le monde, sans exception. Frédéric Sébastien.
Alors, vous le savez bien, Leïla, hein, vu que je vous le dis à chaque fois que vous me demandez pourquoi j'aime déjeuner avec Albert Algout et Daniel Morin, j'ai travaillé dans le social.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, au SAMU social, plus exactement. Alors, le SAMU social, c'est ce service d'hébergement qui fait aux sans-abri ce que les monstres font à vos encombrants une fois par mois. C'est-à-dire faire disparaître ceux qui vous gênent un petit peu. Alors, attention, en vous disant ça, Leïla, je ne tiens pas à montrer, comme il est de si bon ton de le faire sur cette antenne, à quel point je suis un type bien, genre, oh, il a travaillé dans le social, il mange que des légumes bio, il vote à gauche, il dénonce les violences faites aux femmes, la manière dont on traite les migrants, un point levé et un tract de son spectacle dans l'autre main. Non, je vais être honnête avec vous. Initialement, j'ai bossé au SAMU social de Paris pour gagner ma vie. Voilà, alors là, je lis de la déception dans le regard du public. Oh, chroniqueur à France Inter, et pourtant il veut gagner de l'argent. Bah oui, d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est précisément ce que je continue à faire autour de cette table. J'aimerais pouvoir vous dire que le fait d'écrire 200 chroniques humoristiques par an qui traitent de l'actualité du pays me comble à tel point que je pourrais les faire gratuitement, que le simple fait de partager le même air que vous, Leïla et Daniel, suffit à m'emplir de fierté. Oui. Mais la vérité, c'est que non, j'ai besoin d'argent. Dès l'instant où je suis plus payé pour être là, allez manger vos morts, moi je connais plus personne.
Donc,
quand j'ai rejoint le 115, c'était pour me payer des cours de théâtre privé qui me coûtaient 250€ par mois, afin d'avoir la chance de réaliser le rêve ultime du comédien banlieusard et provincial que j'étais, jouer un dealer dans Julie Lescaut. Oui, je sais, c'est un rêve leader price, mais je reste persuadé que le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'est d'avoir des rêves qui volent pas trop. Moi, mon rêve, c'est pas de remplir l'Olympia comme Guillermo, le point virgule un lundi 19h, moi ça me va. Donc quand j'ai intégré les services du 115 pour répondre au téléphone, je l'ai fait avec la même motivation que quand Karim intègre la plateforme téléphonique de Free et se fait rebaptiser Christophe. Très vite, je me suis rendu compte que le SAMU social était finalement moins là pour héberger les sans-abri que pour donner l'impression qu'on hébergeait les sans-abri. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas de place. Cherchez pas, il n'y a pas de place à Paris. Niveau logement, il y a des couples, ils débarquent avec 5000 euros d'apport, 12 garants, des échantillons d'urine et une lettre du pape, ils trouvent pas. Donc, t'as de la barbe, des poux et tu sens le pipi, clairement, t'es pas en tête des priorités de la ville de Paris. Et puis les gens, faut arrêter, ils sont d'une hypocrisie avec les sans-domicile. Une municipalité installe du mobilier urbain anti-sans-abri. Vous savez, les moitiés de bancs, des trottoirs de fakir, vous savez, avec des pics. Le genre de mobilier urbain que tu retrouves dans la tête de Landru ou Mengele. Bon bah, immédiatement, les gens vont hurler au scandale. Zaz vont faire une chanson. Sur Facebook, t'as même des gens qui vont changer leur bannière. Je suis Charclos. Et solidarité. Au bout d'un moment, la mairie va céder et les gens vont crier « Yes ! On s'est battu pour que les gens aient le droit de dormir dehors dignement !» Non mais c'est quoi la prochaine étape? On va se battre pour que les migrants se noient dans une eau à 27 degrés? Parce que quand il s'agit d'ouvrir un centre d'hébergement en plein cœur de Paris, là, c'est une autre histoire. Et ça concerne pas forcément que le 16e arrondissement, faut arrêter de stigmatiser toujours les populations les plus riches. Durant mes 5 années au SAMU, je l'ai vu de mes yeux. Tu peux faire tes courses à la vie claire, avoir des places première catégorie pour le concert de Juliette Armanet, te palucher devant un spectacle de Blanche Gardin ou le dernier Virginie Desplantes. Si tu t'es endetté sur 30 ans pour payer ton 50 mètres carrés, en plein cœur de Paris, t'es pas forcément hyper chaud patate quand on t'annonce qu'on va ouvrir un centre d'hébergement à côté de chez toi. C'est humain, je ne juge pas. Mais simplement, ça pose la question de l'indécence. Parce que cette semaine, par exemple, tout le monde s'offusque que le président Macron s'organise un petit safari photo Instagram au milieu des clodos que sa politique fabrique en masse.
un petit peu comme si le PDG de Marlboro se faisait un Snapchat dans un service de cancéreux. Hein, surtout quand on sait que le gouvernement a fait baisser de 57 millions d'euros les dotations pour les centres d'hébergement et de réinsertion. Donc ça manque pas de sel. Hein. Et ben finalement, en quoi c'est véritablement plus indécent que nous, qui sommes plus choqués par un sketch de Jean-Marie Bigard à TPMP que par les 800 abris dormant sur un carton qu'on a croisé en venant bosser le matin. Peut-être qu'en dénonçant son indécence, on essaie d'oublier la nôtre. On lui en veut de vouloir se montrer à côté des sans-abri, alors qu'il lui suffirait de faire comme nous, finalement, ne pas les voir.
Bravo, sur France Inter.
Lambert Wilson est toujours avec nous jusqu'au 18 mai. On sait où vous êtes. Vous êtes au Théâtre Libre pour le Misanthrope. Que nous réserve la suite? On a évoqué Benedetta, ce film de Paul Verhoeven.
Et un film de Régis Roinsart, dont on avait adoré Populaire, qu'il avait fait avec Romain Duris sur un concours de secrétaire dans les années 50. Et là, il a fait un film sur le monde de l'édition, et c'est une sorte de thriller où je joue un éditeur démoniaque qui enferme ses traducteurs dans un blocos pour les faire traduire un livre qui est un succès mondial. Ça s'appelle Traducteur, ça sortira à l'automne.
Quand on pense à vous, on pense à des choses bizarres.
Mais c'est rien de le dire. Hein. Ouais, ouais. Ce n'est qu'un début, puisque je vais aussi, dans le genre bizarre, j'incarnais le général de Gaulle. C'est étrange, puisque après avoir fait l'abbé Pierre et d'avoir fait Cousteau, je vais faire le général de Gaulle pendant juste le mois qui précède l'appel de... Alors, c'est pas un biopic du tout sur le général de Gaulle, c'est vraiment spécifiquement ce mois qui précède l'appel de juin 40, son passage en Angleterre, sa fuite de Bordeaux, et puis la présence du personnage d'Yvonne, qui a été très importante dans sa vie, et particulièrement à ce moment-là, enfin, elle a été importante toute sa vie. Donc ça, c'est prévu pour cet été.
Et puis la musique fait toujours partie de votre
vie.
Et
la musique, le chant, j'ai toujours, depuis que je suis petit, j'ai toujours été fou d'un compositeur allemand qui avait écrit l'opéra de Katsu, le fameux Kurt Weill, parce qu'en fait mon père avait monté ça à Chaillot et que j'écoutais ça à la maison, je sais pas pourquoi, plutôt que d'écouter Dorothée, j'écoutais Kurt Weill. Et en fait, j'ai envie de faire un spectacle, on va faire des concerts avec trois périodes, la période allemande, dont l'opéra de Katsu, la période française, parce qu'il a passé 2 ans à Paris dans les années 30, et la période américaine où il a écrit des comédies musicales pour Broadway. Et ça sera vers la fin de l'année, on va commencer avec l'Orchestre des Pays de la Loire, du côté d'Angers, Nantes, etc. Et puis on a un rendez-vous assez prestigieux début 20, là, à la Philharmonie, carrément.
Bon, vous l'avez compris, Lambert Wilson ne partira donc pas en Amérique du Sud, forcément. Lambert, on a des excuses à vous présenter, Daniel.
Alors déjà des excuses pour le pape François qui a découvert ce matin l'homme qui allait l'incarner à l'écran, à savoir un comédien qui envisage de vendre de la drogue en Amérique latine, un homme qui défend l'évasion fiscale, un homme qui se perruque pour des soirées un peu cheloues. Bah, je comprends pas votre inquiétude, très sympère. Voilà toutes les qualités requises pour faire un bon ecclésiastique. Désolé pour nos auditeurs qui ont été choqués par notre défense du commerce de la cocaïne. Et ça va, les amis, quand même, Leïla a exprimé sa forte désapprobation. Elle a dit
« C'est pas bien ».
Désolé pour nos auditeurs qui ont été choqués par notre défense de l'évasion fiscale. Eh, ça va, hein, c'est pas nous, c'est Lambert Wilson. Ah ben, tenez, à propos d'évasion fiscale, Nagui, on t'embrasse.
Merci beaucoup, Lambert Wilson, d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir accueilli.
Et nous avoir présenté ce Misanthrope au Théâtre Libre, donc jusqu'au 18 mai. Demain, dans la bande originale, nous recevrons Renaud Capuçon avec son album Cinéma.
Et à suivre Carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Leïla, bonjour
Salut.
Les amis.
Bonjour
Philippe. Et dites, je me trompe ou Alceste est un peu enrhumé?
Non, il a la voix fatiguée parce qu'il joue tous les soirs.
Voilà, non, parce que j'allais dire, c'est pas prévu dans le texte, ça. Bon, ben, bon courage.
Bon courage. Je t'embrasse, Philippe, je t'embrasse.
Bonne émission.
Salut les amis.
Bisous.